Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Au psaume 78. Psaume 78. Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs, j'évoquerai des secrets du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous n'allons pas le chercher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses du Seigneur, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, il a établi une loi en Israël, il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi et qu'ils observent tous ses commandements. Et un second texte dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Versets 7 et 8. Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et de toute éternité. Je n'ai pas l'intention de commenter ces deux textes bibliques, mais je vous propose plutôt de les mettre en pratique tout de suite, en évoquant l'anniversaire que nous célébrons cette année. Alors, il me faut quand même rapidement m'expliquer sur l'usage que je vous propose de ces deux textes, parce que leur intention première est différente. Dans le psaume 78, ce sont les événements fondateurs d'Israël qui doivent être racontés d'une génération à l'autre. Et dans l'Épître aux Hébreux, ce sont les responsables de l'Église que les chrétiens ont bien connus et qui sont morts peu de temps auparavant, dont les lecteurs sont invités à se souvenir. C'est donc une application élargie que je vous propose. Et le simple fait de citer ces deux textes l'un à côté de l'autre peut suffire, je pense, à nous convaincre de la légitimité de cette application. Si nous sommes invités par la Bible à nous souvenir aussi bien du passé très ancien qui nous est rapporté par la Bible, aussi bien que du passé récent qui n'est pas raconté dans la Bible, bien sûr, n'est-ce pas aussi tout le temps qui est compris entre les deux qui se trouve pour nous baliser. Alors suivons donc l'instruction qui nous est donnée en l'appliquant à l'anniversaire de la réforme, nous souvenir et en tirer profit. Je vous propose d'ordonner notre exercice de mémoire selon deux questions. Que s'est-il passé le 31 octobre 1517, la première question. Et la deuxième question, ce sera peut-être un peu surprenante, mais j'y reviendrai. Pourquoi y a-t-il eu des guerres de religion en France? Et ça nous amènera à une troisième question. Que signifie pour nous, aujourd'hui, les 500 ans de la réforme? Alors, que s'est-il passé le 31 octobre 1517. Et pourquoi cette date a-t-elle été choisie pour marquer le début de la Réforme? Selon la tradition, c'est ce jour-là, la veille de la Toussaint, que Martin Luther, qui était professeur de théologie à l'université de Wittenberg, que ce jour-là, qu'il aurait affiché sur la porte de l'église de la ville 95 propositions dont il était prêt à débattre avec qui le voudrait bien. Les débats publics sur les questions de théologie étaient une pratique courante à l'époque. Deux spécialistes s'affrontaient en soutenant chacun son point de vue. Et en présentant ainsi ses propositions, Martin Luther lançait une sorte de défi. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, eh bien qu'il vienne en débattre. Et il proposait même aux personnes qui n'auraient pas la possibilité de le rencontrer, il leur proposait d'en débattre par écrit. Le sujet sur lequel portaient les 95 propositions, on appelait ça les 95 thèses, mais aujourd'hui les thèses c'est tellement volumineux que, alors que c'est chaque fois une ou deux lignes. Donc ces 95 propositions, le sujet sur lequel elles portaient, c'était un sujet particulièrement chaud cette année-là en Allemagne. C'était la question des indulgences. Une question très complexe. Elle était complexe à l'époque et peut-être que pour nous, elle apparaît encore plus complexe. C'est une question qui touche au pardon des péchés. Comment être assuré que tel péché qu'on a commis est entièrement pardonné et qu'on a rempli à cet égard toutes ses obligations? Alors, comment ça se passe à l'époque? Le péché commis doit être confessé à un prêtre. Et le prêtre va prononcer l'absolution s'il estime que ma repentance est sincère. Donc, je suis assuré du pardon de Dieu. La peine éternelle m'est remise. Je n'irai pas en enfer à cause de ce péché. Mais, en plus de la peine éternelle, on considère qu'il existe une autre peine, qui n'est pas éternelle, qui est temporelle, une sanction de la faute que je dois accepter, une sanction de « je dois faire mon profit pour me purifier de mon péché ». Ce système d'une double peine nous apparaît certainement étrange et abusif. Mais si nous y regardons de près, il nous faut quand même admettre que ça n'est pas sans fondement biblique. David, après avoir confessé son péché, a reçu l'assurance du pardon de Dieu. « Le Seigneur pardonne ton péché », déclare le prophète Nathan, et il ajoute même « Tu ne mourras pas ». Mais les sanctions qui étaient annoncées par le prophète ne sont pas levées pour autant. Le malheur ne s'éloignera pas de sa famille. Et Nathan, comme si ça ne suffisait pas, rajoute encore une autre sanction. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as donné aux ennemis du Seigneur l'occasion de l'insulter, le fils qui est né de ta relation avec Bathsheba mourra. David est pardonné, entièrement pardonné. La relation avec Dieu est rétablie. Mais David va subir, et subir encore longtemps, les corrections que Dieu a estimées utiles de lui infliger. Donc, ce n'est pas tant la notion de double peine qui pose problème ici, c'est peut-être une certaine confusion entre la peine elle-même infligée par Dieu et la façon pour le croyant d'accepter cette peine ou même de s'infliger à lui-même des peines pour se purifier de son péché. Et quoi qu'il en soit, c'est en rapport avec cette seconde peine qu'intervient la fameuse question des indulgences. L'indulgence, c'est la possibilité offerte d'alléger cette peine, ou peut-être de la supprimer dans certaines circonstances. Et cette possibilité d'alléger la peine, elle repose sur la croyance que l'Église est dépositaire d'un important capital, un trésor constitué d'abord par les mérites de Jésus-Christ et puis augmenté ensuite par les mérites des saints et particulièrement les mérites des martyrs, et que dépositaire de ce capital, l'Église peut en faire bénéficier les croyants sous certaines conditions et dans certaines circonstances. Alors, au lieu de devoir subir tant d'années de souffrances, de privations, de mortifications, et à coup sûr aussi tant d'années de purgatoire, puisque la peine ne sera pas achevée sur la terre, alors le croyant peut se voir offrir un échange. Faire tel pèlerinage, à telle époque, faire un don généreux ou d'autres actions semblables et se voir ainsi bénéficier d'une remise de peine, une remise partielle ou une remise totale. Et c'est loin d'être négligeable parce que à l'époque, les prédicateurs parlaient facilement de milliers d'années de purgatoire à accomplir avant de pouvoir accéder au paradis. Purgatoire, ça n'est pas un voyage d'agrément. On raconte à l'époque des histoires de personnes qui seraient mortes, qui seraient arrivées au purgatoire et ensuite elles seraient revenues sur la terre et elles ont dit qu'elles préféraient 1000 ans de malheur sur la terre qu'un seul jour dans le purgatoire. Alors la possibilité de cet échange, elle n'est évidemment pas laissée à l'initiative de croyant lui-même, c'est l'Église, c'est le pape qui peut décider de ces remises de peine. Or, quelques années auparavant, avant l'affichage des thèses de Luther, en 1505, le pape s'est décidé à raser l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome pour en construire une nouvelle, plus grande, plus moderne, et pour cela il a besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un énorme projet qui va se poursuivre pendant plus de 120 ans. Et les deux premiers papes qui sont engagés dans ce projet vont recourir aux indulgences pour financer l'entreprise. Celui qui fait un don pour la construction de la basilique se voit accorder une remise de peine. En 1516-1517, donc on arrive à la date de l'affichage de ces thèses par Luther, en 1516-1517, la collecte des fonds en Allemagne a été prise en charge par l'archevêque de Mayence. C'est un homme de 27 ans, à l'époque on peut être archevêque à cet âge-là, et c'est quelqu'un qui a lui aussi un urgent besoin d'argent parce qu'il s'est très lourdement endetté pour acheter sa charge d'archevêque. Une charge intéressante parce que c'est aussi une charge d'électeur de l'empereur d'Allemagne. Alors il s'est entendu avec son banquier. La moitié de la collecte va servir à revenir à la banque et servir à éponger sa dette. Et puis l'autre moitié ira à Rome pour la basilique Saint-Pierre. C'est un étrange montage financier auquel le pape a consenti. Et la collecte est confiée à un moine bénédictin, qui s'appelle Johann Tetzel, quelqu'un de très efficace pour récolter de l'argent, quelqu'un qui ne lésine pas sur les liens. Lorsqu'il arrive dans une ville, il se fait accueillir en grande pompe par les autorités. Il fait supprimer toutes les autres célébrations dans les églises de la ville lorsqu'il prêche lui-même. Et puis il ne manque pas d'apitoyer ses auditeurs sur le sort terrifiant des âmes dans le purgatoire. Et il ne craint pas non plus d'employer des formules choc telles que « lorsque la pièce tombe dans le tronc, l'âme s'envole du purgatoire ». Dans ces 95 propositions, Luther ne se contente pas de dénoncer les abus de Tetzel, il veut aussi réorienter la foi des fidèles. Ce qui importe, c'est la repentance plutôt que la course à l'indulgence. Le vrai trésor de l'Église, ce ne sont pas les mérites des saints, mais c'est l'Évangile. Parole de Dieu qui apporte le salut. Et il est plus utile, il est plus généreux de donner aux pauvres que de faire un don à Rome pour obtenir une indulgence. Alors, le débat qui est ainsi lancé par Martin Luther aurait très bien pu ne pas dépasser le cadre habituel de ce genre de joute théologique qui était si fréquente à l'époque. Et le fait que Luther ait affiché son document à la porte de l'Église, si c'est bien le cas, ça a été discuté, ça n'est pas prouvé, mais c'est quand même assez vraisemblable, de toute façon, ça n'avait rien d'une provocation. C'était une pratique habituelle à l'époque. Et d'ailleurs, la feuille était rédigée en latin, c'était à l'usage des personnes instruites qui étaient habituellement intéressées par ce genre de débat. Donc tout cela aurait pu rester assez confidentiel, ou en tout cas assez local. Et nous n'en parlerions pas aujourd'hui, parce qu'on l'aurait oublié. Ce qui a donné à ce document son retentissement, c'est d'abord qu'il a été envoyé par Luther au responsable même de la collecte, c'est-à-dire l'archevêque de Mayence, avec une lettre, pas dit par une lettre. Et l'archevêque de Mayence, au lieu d'entrer en dialogue avec Luther comme Luther le lui proposait, ou au lieu de modérer son prédicateur, l'archevêque de Mayence en a référé directement au pape, lui demandant d'examiner les propos de Luther et d'intervenir contre Luther. Et ainsi le débat théologique est devenu une affaire touchant l'Église au plus haut niveau de la hiérarchie. Luther n'a pas été immédiatement condamné, et pour autant. Alors c'est plutôt Tetzel qui s'est fait taper sur le doigt. Et c'est 3 ans plus tard que Luther, et pour d'autres écrits, a reçu du pape l'ordre de se rétracter sur plusieurs points sous peine d'excommunication. Un ordre que Luther, d'ailleurs, a brûlé en public, et là, la rupture avec Rome était consommée. Mais Luther ne s'est pas contenté d'envoyer son texte à l'archevêque de Mayence, il l'avait adressé aussi à d'autres personnes, et pour finir, le document a été largement diffusé par les éditeurs qui en faisaient leur profit. Quand quelque chose se vend, eh bien, les éditeurs l'impriment. Et puis, ça a été imprimé non seulement en latin, mais aussi en allemand. Et là, c'était pour le grand public. Et le débat sur les indulgences est devenu ainsi un débat public à l'échelle de l'Allemagne. Ce débat intéressait d'autant plus les Allemands qu'il touchait à leur fierté. Les Allemands, à cette époque, c'était un peu les parents pauvres de l'Europe. Ça peut surprendre, mais ce n'était pas vraiment les Grecs, mais ils étaient méprisés par les autres, et notamment par les Italiens, qui étaient plus riches et plus cultivés. Et donc la façon dont on collectait chez eux, en Allemagne, des fonds pour Rome, elle apparaissait d'autant plus humiliante et révoltante. Donc voilà ce qui s'est passé le 31 octobre 1517. Alors, on a pu choisir une autre date pour marquer les débuts de la réforme, un peu plus tôt ou un peu plus tard. Choisir au début de la réforme la découverte personnelle par le moine Luther quelques années auparavant, 1513, la découverte de la justification par la foi seule. Et c'est cette découverte dont on a parlé au début de ce culte, cette découverte qui a changé le cours de la vie de Luther et qui a donné à la réforme deux de ses principes fondamentaux qu'on a rappelés tout à l'heure, par la grâce seule, par la foi seule. Et on pourrait aussi dater le début de la réforme un peu plus tard, en 1521, cette date vient d'être évoquée aussi tout à l'heure, lorsque Luther comparaît devant la juridiction suprême de l'Empire germanique, il est sommé de se rétracter. Et on vous a déjà dit ce qu'il a déclaré, mais je ne résiste pas quand même au plaisir de le redire encore, parce qu'on pourrait le savoir par cœur. À moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, car il est manifeste qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes bibliques que j'ai apportés. Ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Il risque sa tête. Et avec cette forte déclaration, nous avons, comme cela a été dit, un troisième grand principe de la réforme, l'écriture seule. Donc il y a une certaine part d'arbitraire dans le choix du 31 octobre 1517, et il ne faudrait pas en conclure que la réforme, ce serait simplement une réaction à certains abus manifestes auxquels la hiérarchie catholique n'aurait pas donné... La hiérarchie catholique n'aurait pas mis bon ordre, des abus qui étaient contre la doctrine officielle de l'Église. Il y a de cela. Mais ce n'est pas tout. C'est plusieurs dogmes de l'Église qui sont en cause. Donc, 1517 reste une date significative si on ne manque pas de lui associer ce qui a précédé et ce qui a suivi. J'en viens maintenant à ma deuxième question, qui peut paraître éloignée de l'anniversaire qui nous occupe, mais c'est une question qui m'a travaillé en pensant justement à cet anniversaire, et je ne pense pas que nous puissions vraiment échapper à cette question. Parce que si nous célébrons les 500 ans de la Réforme comme une référence positive pour notre foi, comment se fait-il que moins de 50 ans après les débuts de la Réforme, cet événement si positif et eut des conséquences aussi néfastes ici en France. 36 ans de guerre de religion entre 1562 et 1598. Peut-on célébrer comme positif un événement qui a eu des conséquences aussi néfastes? Alors, une réponse simple peut venir à l'esprit, mais c'est la faute des catholiques. Il est vrai que si la hiérarchie de Rome et les autorités politiques avaient accepté la réforme partout en Europe, et notamment en France, il n'y aurait pas eu de guerre de religion. Il y aurait eu d'autres guerres, mais il n'y aurait pas eu ces guerres-là. Et d'autre part, comme en France, la majorité est restée du côté catholique, on peut considérer que ceux qui étaient les plus nombreux, ceux qui avaient le plus de pouvoir, portent la responsabilité la plus grande. Et à considérer le nombre des victimes, il y en a eu bien plus de protestants que de catholiques. Les 3000 victimes de la Saint-Barthélemy à Paris en donnent une idée. Et il est aussi certain qu'en France, les protestants ont été persécutés dès le début de la réforme. Ça est indéniable. Mais ce qui pose problème quand même, c'est qu'il y a eu des guerres de religion. Des protestants qui se sont trouvés en guerre contre les catholiques, des armées qui se sont affrontées, il y a eu des batailles, il y a eu des sièges, des pillages. Pourquoi ? Parce que les gens étaient méchants. Parce qu'ils n'avaient rien compris à la religion. Ou alors peut-être parce que la religion n'empêche pas la violence. Ou peut-être même que la religion incite à la violence. Alors, je ne vais pas maintenant entrer dans le détail de la politique de cette époque, parce que ce serait au moins aussi compliqué que la question des indulgences. Mais il y a une chose qu'on peut remarquer, relativement simple, c'est que cette période des guerres de religion coïncide avec une période d'affaiblissement du pouvoir royal. À cause de la mort prématurée de plusieurs rois, des accidents, des maladies, un assassinat, je ne parle pas de l'assassinat d'Henri IV, mais un assassinat qui est intervenu précédemment. Et puis à cause de la minorité de certains rois, 15 ans pour l'un et 10 ans pour l'autre. Vous voyez ça, un petit roi de 10 ans. C'est une période de lutte entre les grands seigneurs pour s'assurer le contrôle de la politique, s'assurer le contrôle du roi. On l'a même une fois pratiquement kidnappé, avec son entourage. Alors, il y a trois partis qui s'affrontent et qui alternativement s'allient ou se combattent, et deux de ces partis sont regroupés autour d'un seigneur catholique, et puis l'un d'entre eux autour d'un seigneur protestant, Henri de Navarre, qui deviendra ensuite Henri IV. Alors Calvin, depuis Genève, a toujours conjuré les protestants de France de rester soumis au roi, malgré les souffrances, malgré les injustices qu'ils subissaient. Donc que faire lorsque le pouvoir du roi se trouve confisqué par celui du grand seigneur, lorsqu'on se trouve pratiquement contraint de prendre un parti ou un autre? Et c'est dans ces circonstances-là que se sont développées les guerres de religion. Un mélange d'instabilité politique, de lutte pour le pouvoir et de religion. Il vaut la peine de réfléchir à ce mélange déconcertant. Il est particulièrement choquant lorsqu'il est associé à des guerres, mais voyez-vous, l'action de Dieu, elle se développe non pas dans l'abstrait, dans l'idéal, mais dans le monde réel, le monde tel qu'il est, un monde qui est marqué par le péché, le mensonge, la violence, la soif de pouvoir, et il est inévitable qu'il y ait des mélanges. Par exemple, nous avons remarqué que le document publié par Luther sur les indulgences n'aurait jamais eu la publicité qu'il a eue et le succès qu'il a rencontré s'il n'avait pas rencontré un écho chez un peuple qui se voyait opprimé et méprisé, humilié. À cette époque, le représentant du pape va jusqu'à écrire « Les 9/10 de l'Allemagne crient « Vive Luther !» et tout en ne le suivant pas, le reste fait chorus pour crier « Mort à Rome !» Voilà le mélange. Alors on pourra l'estimer providentiel parce qu'il a permis à beaucoup de connaître la bonne nouvelle du salut. Mais ce mélange, il a eu aussi des conséquences extrêmement tragiques. La révolte des paysans, par exemple. Et ce mélange, nous pouvons aussi le repérer à une échelle plus réduite dans notre propre vie, dans la vie de l'Église. Nous risquons nous aussi de confondre nos intérêts avec ceux de Dieu, nos sentiments de frustration ou nos ambitions avec l'action de Dieu. Que Dieu nous aide à y voir clair. Certes, Dieu agit dans le monde tel qu'il est, mais il agit non pas pour brouiller les cartes, non pas pour entretenir la confusion entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal. Sa parole nous fait connaître sa pensée. Elle est un guide sûr pour nous aider à bien discerner l'action de Dieu et la distinguer du mal qui règne en ce monde et qui, malheureusement aussi, subsiste en nous. Alors j'en viens à ma troisième et dernière question. Que signifient pour nous aujourd'hui les 500 ans de la Réforme ? Cette question, vous allez encore en parler, ce sera juste une introduction. Cet anniversaire nous renvoie à la complexité du paysage qu'offrent aujourd'hui les églises chrétiennes. Église catholique, église protestante au pluriel, église évangélique au pluriel plus. Je n'ai pas mentionné l'église orthodoxe. Une famille aux multiples ramifications dans laquelle beaucoup ont de la peine à se retrouver. Surtout avec les membres les plus récents ou les plus petits. Une famille qui quand même s'emploie régulièrement à donner de belles images de fraternité. Des photos de famille avec des représentants de chaque branche principale revêtus de leurs habits officiels. Et puis des embrassades émouvantes. Tout cela pour dire, on est différent, mais on s'aime bien quand même. On s'aime bien tel qu'on est. Nos différences sont une richesse. Nous ne nous jugeons pas, nous nous accueillons mutuellement. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend des critiques, parce qu'on en entend quand même, c'est plutôt à l'intérieur d'une même branche de la famille que ces critiques se font entendre, entre catholiques ou entre protestants. Mais d'une branche à l'autre, on se dit plutôt des gentillesses. C'est tellement plus valorisant pour celui qui les reçoit et aussi pour celui qui les dit. Comme le paysage a changé depuis 500 ans. Et tout ça, ce n'est pas seulement de l'apparence, c'est largement sincère et même sérieux. Vous voyez par exemple les efforts du côté catholique pour nouer des dialogues théologiques honnêtes avec les différentes famille d'église, dialogue entre catholiques et luthériens, catholiques réformés, catholiques évangéliques, catholiques baptistes. C'est sérieux. À l'issue du dialogue, on publie un document qu'on appelle de consensus différencié, c'est-à-dire que ça résout les points d'accord et les points de désaccord. C'est du sérieux, c'est fraternel, c'est honnête et sérieux. C'était de plus. Plus sur le fond, il y a des changements réels. L'Église catholique n'interdit plus aux simples fidèles de lire la Bible. Elle les y encourage. Et la doctrine fondamentale du salut par grâce, qui au XVIe siècle était si largement recouverte par l'insistance sur les mérites à acquérir, cette doctrine elle est de nouveau bien visible dans le message de semble-t-il, toutes les églises. Alors, est-ce que nous pouvions célébrer les 500 ans de la Réforme comme l'anniversaire d'une idée qui a réussi ? Un anniversaire que les différentes branches de l'Église réconciliées autour de l'essentiel, la Bible, le salut par grâce, et l'Église pourrait les célébrer désormais ensemble. Nous pouvons sincèrement nous réjouir de ces aspects qui sont incontestablement positifs. Nous pouvons y reconnaître l'œuvre de Dieu qui ne cesse d'agir dans l'Église. Reconnaissance pour ce que Dieu a fait par la Réforme et pour ce qu'il ne cesse de faire encore dans les Églises. Reconnaissance, mais aussi vigilance et fermeté. Parce que le paysage plutôt apaisé que nous présente famille chrétienne lorsqu'on la compare aux luttes du XVIe siècle, ce paysage recouvre bien des misères, bien des lâchetés, bien des compromis avec les idées, la morale d'un monde qui est en guerre contre Dieu. Alors, je ne veux pas m'engager ici dans une revue des erreurs et des compromis qui affligent les autres branches de la chrétienté, l'Église catholique, l'Église protestante unie, il y en a, et il vaut la peine de nous en prévenir. Et pour cette raison, le fait qu'il existe entre les églises, qu'il existe encore des églises différentes, aux noms différents, aux principes différents, c'est décevant, c'est vexant. Mais ça présente quand même l'avantage de nous protéger de bien des erreurs qui ont droit de citer ailleurs que chez nous. Mais ces barrières ecclésiastiques ne nous protègent pas de toutes les contagions que nous vivons dans le monde, nous en subissons l'influence et nous-mêmes aussi. Notre pensée doit être toujours corrigée. Nous devons rester vigilants, attentifs à la parole de Dieu qui doit sans cesse former, réformer notre pensée. Je voudrais attirer votre attention sur un point qui touche à la doctrine de la grâce. Une doctrine qui est au cœur de l'expérience spirituelle de Martin Luther, une doctrine qui est remise en lumière par la Réforme, une doctrine qui est aujourd'hui professée avec unanimité assez impressionnante par toutes les confessions chrétiennes. On ne jure que par la grâce, on ne veut savoir que la grâce, tout est grâce. Mais qu'est-ce que la grâce on célèbre si fort? Voyez-vous, le principe même de la grâce, il implique trois choses assez désagréables, qui n'est pas bien vu, dont il n'est pas bien vu de parler aujourd'hui. La grâce, elle implique la culpabilité. On ne gracie pas des innocents, mais des coupables. La grâce, elle implique une loi par rapport à laquelle on est coupable ou innocent. Et la grâce, elle implique une sanction légitime de la faute, parce que c'est par rapport à cette sanction qu'on est gracié. Alors que se passe-t-il lorsqu'on parle de la grâce, lorsqu'on célèbre la grâce, en laissant dans l'ombre, quand même parfois carrément de côté, la loi, la culpabilité et le châtiment? Et en fait, on prive la grâce de ce qui en fait la saveur, de ce qui en fait la réalité même. Alors le mot semble encore reluire de tout son éclat, on ne se lasse pas de l'admirer, de s'émerveiller, la grâce, rien que la grâce, mais le mot a perdu sa substance. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il est devenu, consciemment ou non, une machine de guerre. Une machine de guerre pour contester la loi, pour nier la culpabilité et pour refuser l'idée du châtiment. Et ainsi, la façon dont on célèbre la grâce ne sert qu'à mieux l'anéantir. La Réforme serait-elle victime de son succès? Lorsqu'on aborde la lecture de la déclaration de Martin Luther sur les indulgences, on tombe sur une première proposition qui est proprement sidérante. Je vous la lis. En disant « Faites pénitence », notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une pénitence. Gros problème. Gros problème. D'abord, la traduction « faites pénitence » au lieu de « repentez-vous ».« Repentez-vous », c'est immédiat. « Convertissez-vous », mais « faites pénitence », c'est tout un processus, ça dure, ça demande de l'effort. Et si on en doutait encore, Luther, à la fin de la phrase, ne laisse plus aucun doute. Non seulement ça dure, mais c'est toute la vie. Et n'est-ce pas là vraiment le contraire de la grâce qui libère, la grâce qui libère du poids du péché? Alors, bon, Luther, ce n'est pas la parole infaillible de Dieu. C'est un témoin majeur de l'Évangile, mais Luther peut très bien le payer. Et on peut légitimement considérer que la façon dont il comprend l'exhortation de Jésus n'est pas très exacte et que nous la comprenons mieux, l'exhortation de Jean-Baptiste et de Jésus, en la rapportant au changement initial de la conversion, convertissez-vous. Mais lorsque nous sommes effarés, que Luther ne craigne pas de donner une image aussi négative de la vie du croyant, là c'est peut-être nous qui nous trompons. Où avons-nous lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament, que notre vie de croyant devait être une vie heureuse, équilibrée, que nous devrions nous sentir bien dans notre peau et faire envie aux autres? Ça ne dérange absolument pas Luther d'affirmer que toute la vie des fidèles doit être une pénitence, parce qu'il a d'autres critères. Ce n'est pas l'épanouissement de l'homme qui le préoccupe. C'est son progrès spirituel. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et à cause de cela, Luther, dans son problème avec les indulgences, ne remet pas en cause la pénitence. Il la valorise au contraire. Il la valorise au contraire, en contraste avec l'indulgence, qui risque de détourner le croyant de son objectif de purification, de sanctification. Alors avec les indulgences, au lieu de s'améliorer, le fidèle se croit quitte parce qu'il a obtenu, parce qu'il a acheté son certificat d'indulgence. Alors aujourd'hui, je ne crois pas que nous proposions des certificats d'indulgence. D'ailleurs, en aurions-nous besoin? Nous ne croyons plus tant au châtiment divin dans cette vie. Et de plus, nous veillons surtout à ne pas nous culpabiliser. Les livres, les formations qui rencontrent, me semble-t-il, le plus de succès dans nos églises évangéliques sont celles qui donnent comme objectif une vie apaisée, une vie équilibrée, la guérison de nos blessures, ou même l'épanouissement de notre personnalité. Alors dans ce schéma, l'être humain n'apparaît plus victime, apparaît plus victime du mal qu'il a subi que coupable, responsable du mal qu'il a commis. Alors il est vrai que le péché fait de nous à la fois des coupables et des victimes. Et Dieu est certainement assez bon pour vouloir nous guérir, pour vouloir nous épargner bien des souffrances, et nous devons nous aussi nous soucier assez de nos semblables, de nos frères et sœurs, pour chercher à les comprendre et à les aider, bien sûr. Mais Dieu ne nous encourage pas à nous soucier de nous-mêmes, à nous préoccuper de nous-mêmes, c'est bien le contraire. Notre préoccupation, ça doit être la sanctification. Et ainsi, nous ne recevrons pas la grâce de Dieu en vain. Elle produira en nous des fruits de purification, de sainteté, d'obéissance, de foi, d'amour pour la gloire de Dieu et pour le bien de nos semblables. Alors, je termine. Voici achevé notre voyage 500 ans en arrière. Quelle impression allons-nous en retirer? Le soulagement, peut-être. Comme ces voyageurs qui ne semblent faire un tour à l'étranger que pour conclure, on est quand même bien mieux chez soi, bien mieux nous en France. On est quand même bien mieux chez nous au XXIe siècle qu'au XVIe siècle. De toute façon, nous sommes au XXIe siècle et pas au XVIe, n'avons pas le choix du siècle dans lequel nous vivons. Mais voyager dans un autre temps que le nôtre peut aussi, par le dépaysement que le voyage procure, nous rendre un peu plus lucides sur notre temps. Nous sommes souvent si myopes. Et Dieu a pourvu magnifiquement à ce dépaysement par sa parole, pour laquelle nous redisons, et redisons particulièrement aujourd'hui, en pensant aux 500 ans de la Réforme. Merci pour la Bible. Alors, je vais